9h, 10h, c'est arrivé demain.
François Claus sur Europe 1.
Bonjour à toutes et tous, et comment ne pas commencer cette émission sans rendre hommage au grand philosophe Michel Serres qui nous a quittés cette nuit, lui qui dans sa lumineuse explication du monde nous a tant inspiré, de Dominique Souchier, fondateur de C'est arrivé demain en 1996, à Patrick Cohen qui l'incarne aujourd'hui à l'antenne, cette voix expiègle, ce regard pertinent, optimiste mais qui savait nous alerter sur le monde qui nous entoure, à tous ceux qui se demandent « mais à quoi sert donc un philosophe ?» Ben voilà ce que répondait Michel Serres sur Europe 1, il y a tout juste un an.
En tant que philosophe, je me pose le problème du chômage. Et vous savez, avec la productivité croissante, avec l'entrée du numérique, avec l'entrée de l'informatique, etc., l'informatique va détruire beaucoup plus d'emplois qu'elle n'a créé, bien entendu. Et à un certain moment, si on a une ère robotique vraiment très avancée, il est possible que nous nous orientions à un moment vers une société, allez, je vais le dire, sans travail, où le chômage ne sera pas conjoncturel, mais structurel. Et là, alors il faut rêver une société complètement nouvelle, et c'est ça le travail des philosophes, et les philosophes ne l'ont pas fait. Et c'est leur faute.
Voilà ce mea culpa et cette voix inoubliable. Michel Serres avait 13 ans lorsque les soldats américains débarquèrent en Normandie. Nous fêterons jeudi le 75e anniversaire de cet événement fondateur pour le monde. Nous allons vous raconter dans un instant l'extraordinaire histoire des seules photos. Il y en a 9 signées du légendaire Robert Capa. Mardi soir sur France 5, un document choc et nous allons entendre dans cette émission en avant-première la rencontre inédite entre une victime 33 ans après et son agresseur, un documentaire produit par Mélissa Theuriot sur la justice restaurative. Mélissa Theuriot sera avec nous dans cette arrivée demain. Et puis, on ne mesure peut-être pas encore suffisamment en France ce que va être la grande fête du football. Ce sera à partir de vendredi, la Coupe du Monde féminine. Eh bien, nous serons avec une des pionnières, la joueuse Elisabeth Bourgeon-Tournon.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec François Claus sur Europe 1.
Ce sont peut-être les clichés les plus célèbres du monde, ces clichés qui ont illustré un des événements les plus célèbres du monde qu'on va célébrer jeudi, les 75 ans du débarquement en Normandie. Ce sont aussi des images qui ont littéralement façonné l'histoire, puisque ce sont les seuls témoignages de ce fait majeur. Bonjour Paul-Louis Roubert.
Bonjour François Claus.
Vous êtes président de la Société française de photographie, maître de conférences à Paris 8. Vous êtes un grand spécialiste de la photo du 19e siècle, mais ces photos du 20e, les photos signées Robert Capa du débarquement en Normandie, ce sont en fait 9 petites photos qui, on peut le dire, Paul-Louis Roubert, ont changé l'histoire.
Il n'y a que 2 photographes accrédités par des magazines. Alors, il y a Bob Landry, dont on va perdre les clichés dans la mer d'Angleterre. Donc, on ne saura jamais ce qu'il a photographié. Et à côté de lui, il y a effectivement Robert Capa. Ce sont les 2 seuls qui vont descendre des barges et prendre des photographies sur les plages. Donc, finalement, les images de Capa sont les seules qui restent du débarquement sur la plage elle-même.
Alors, ces images ont une histoire absolument exceptionnelle. Il n'y aura à l'arrivée, lorsqu'on sort la bobine, que 9 photos utilisables. On annonce à ce moment-là qu'un laborantin, stagiaire, aurait saboté le travail de ces clichés, ce qui a contribué beaucoup à la légende de Robert Capa et de ses photos. Aujourd'hui, cette histoire et cette légende est remise en cause, Paul-Louis Roubert.
Oui, Capa fait les photographies le 6 juin. Il se retrouve à Londres le 7 au matin. Les images seront développées assez rapidement. Il n'y a que 10 pellicules. Il donne 10 pellicules 35 mm au laboratoire. Il reste donc à peu près une centaine d'images de l'embarquement et puis une dizaine d'images du débarquement lui-même. Pour justifier le fait qu'il y ait si peu d'images du débarquement en soi, hein, sur la plage, on va raconter, sûrement de bonne foi, d'une certaine manière, dans un premier temps, que le reste des clichés qui auraient été produits par Capa auraient été détruits lors d'un séchage trop brutal du film et qui aurait fait fondre les images, les autres images que personne n'a jamais vues.
Alors, elles ont été étudiées, réétudiées, ces images, et une autre hypothèse, à partir de là, s'est développée.
Voilà, une hypothèse sans doute plus... par un chercheur américain et toute une équipe de chercheurs américains et critiques de photographie. L'idée est de, alors non pas de, de critiquer la légende de Capa, mais peut-être d'en dessiner une image plus humaine. Tout simplement, ce qu'il se serait passé, c'est que Capa aurait non pas passé une heure et demie sur la plage, comme on l'a longtemps écrit, mais juste une demi-heure, et que, comme tous les soldats qui débarquaient à ce moment-là, il a eu une trouille bleue, ce qui a fait que la plupart des images qu'il a produites sont non seulement bougées, mais floues, mais qu'en plus, dès qu'il a plu, il s'est échappé et il a quand même emporté avec lui 7 dizaines d'images, mais non pas la centaine qu'il aurait produit et qui aurait été soi-disant détruite par un laborantin stagiaire.
Et en même temps, on peut comprendre dans ce déluge de feu, de fer, de sang, où il fallait déjà avoir le courage d'être sur l'une de ces barges, que Robert Capa, qui était là physiquement, n'ait pas pu aller au-delà de ce qu'il a pu produire.
Oui, bah, Omaha Beach, on l'appellera Bloody Omaha, hein, c'est un carnage sans nom. On voit la portée aussi des images de Capa, hein, qui ont inspiré la scène d'introduction de « Il faut sauver le soldat Ryan » de Spielberg, qui a essayé de recomposer un peu ce déluge absolument dantesque. On peut comprendre, et c'est aussi là la part d'humanité de ce photographe qui n'a produit que des 10 images, mais quelles images de toute façon, et on ne peut pas lui en tenir rigueur que de ne pas avoir pu rester plus longtemps ou voulu rester plus longtemps sous ce déluge de feu.
Et il a, à partir de là, Robert Capa, fasciné non seulement sa propre légende, mais celle du photographe de guerre, l'homme qui photographie au plus près et qui n'a pas d'autre choix s'il veut faire un bon cliché que d'être au plus près. Et ce métier auquel on peut rendre hommage ce matin continue, perdure depuis Capa.
Toute la biographie de Capa est portée par la légende. Capa, ce n'est pas son vrai nom. Il est né à Budapest en 1913. Il s'appelle Endre Friedman. Et c'est sa compagne qu'il rencontre en 1934, qui est elle-même photographe, Gerda Taro, qui va inventer ce nom de Robert Capa, qui sonne plus américain, plus hollywoodien aussi, et qui va façonner une sorte de personnage que va endosser Capa, le futur Capa, pour devenir ce photographe qui est presque déjà calqué sur une légende américaine, une légende de photographe, de baroudeur, et qui va, alors ça va commencer à la guerre d'Espagne, où il va partir avec Gerda Taro, où ils vont photographier les républicains espagnols, il va choisir son camp, il va devenir clairement antifasciste, et petit à petit, toute son œuvre, qui va être énorme, même s'il va mourir très jeune, puisqu'il va mourir à 40 ans, est portée par cette légende.
À 40 ans, en mourant sur le terrain, il faut préciser, pendant la guerre du Vietnam, et ça aussi, ça participe d'une forme de légende et de mythe.
Oui, il en Indochine, il part pour Life, le magazine Life, pour lequel il travaillait déjà pour le débarquement. Hein. Et en 1954, il saute sur une mine antipersonnelle dans le Tonkin. Il meurt en pleine gloire. Comme ça se répétera, il y a Gilles Caron, ce grand photoreporter français aussi, qui va mourir presque de la même manière. C'est-à-dire que c'est ces hommes qui risquent leur vie pour rapporter des images, quitte à mettre leur vie en danger et à y mourir.
Ah oui, et comment ne pas penser, Paul-Louis Robert, à nos confrères ces dernières années qui, de Misrata en Libye jusqu'à Alep en Syrie, nous ont quittés exactement dans les mêmes conditions et pour le même idéal. Merci Paul-Louis Robert. On précise que les photos sont conservées très précieusement, propriété de l'agence Magnum d'Henri Cartier-Bresson à New York.
Europe 1.
Le choc des photos, le poids des mots dans un instant. Quand une rencontre entre une victime et un agresseur peut permettre à la fois d'éviter la récidive, mais aussi de se reconstruire. Mélissa Theuriot produit un très beau documentaire. Elle est avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
C'est arrivé demain, se poursuit avec vous, François Claus.
Bonjour Mélissa Theuriot.
Bonjour.
Vous produisez un document très fort qui sera diffusé mardi prochain à 20h50 sur France 5. Le titre est assez parlant, Rencontre explicite avec mon agresseur. C'est un document exceptionnel à double titre. D'abord parce qu'il nous éclaire sur cette justice restaurative que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas et qui est inscrite dans les textes en France depuis 2014. Et il nous éclaire sur une histoire très forte, puisqu'une femme accepte de rencontrer son agresseur 33 ans après. Non seulement elle accepte de le rencontrer, mais elle le filme et c'est ce film que vous produisez, Mélissa.
Oui, c'est ce qui en fait le caractère en effet exceptionnel. Et c'est cette démarche très personnelle de Mayana, qui, âgée d'une quarantaine d'années, m'a écrit avec ce désir et presque ce besoin de rencontrer cet homme qui a été son violeur quand elle était petite fille. Elle a souhaité réellement comprendre et poser des questions qui n'avaient jamais pu être posées. Donc ce qui est en effet doublement extraordinaire, c'est un, d'avoir eu besoin et envie d'en faire un film. Ça demande du courage et puis la détermination qu'on peut voir de cette jeune femme. Et deux, d'avoir aussi l'aval de cette personne qui aujourd'hui est libre, a payé sa dette et peut clairement refuser d'être filmée. Et puis ce sont les prémices, c'est finalement assez nouveau. Mayana était l'une des premières françaises à rentrer dans ces cercles de médiation restaurative, je crois que c'est ça le terme exact, qui veut dire rencontrer son agresseur, et non pas un agresseur d'un type de fait similaire. C'est très différent, et il y a encore peu de recul chez nous. On en a de l'étranger, du Canada, etc. Donc moi, je suis convaincue des bienfaits de cet outil. Mais il est très méconnu, et Mayana était l'une des premières. Donc on a dû réellement convaincre que cet homme serait totalement anonymisé, qu'on ne le reconnaîtrait pas, pour laisser place à l'authenticité de la parole, puisque c'est en ça qu'on a envie de croire.
Alors Mayana filme son parcours, ses doutes, sa première rencontre. Elle filme également d'autres victimes. Elle va jusqu'au Canada pour aller à leur rencontre. Et cette justice restaurative, elle a un pionnier en France. Et nous sommes heureux de l'avoir en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour François Goetz.
Bonjour.
Bonjour.
Quand je dis pionnier, François Goetz, vous étiez à la maison d'arrêt de Poissy, et avant même que ce principe de justice restaurative soit inscrit par la ministre Taubira dans les textes en 2014, vous avez tenu, vous, à vous lancer dans cette aventure de rencontre possible entre victimes et agresseurs. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé vers cette démarche ?
Alors moi, je suis directeur de service pénitentiaire et la mission, c'est d'essayer de trouver des dispositifs qui permettent aux personnes condamnées de comprendre et de prendre conscience de ce qu'elles ont fait et les traumatismes qu'elles ont occasionnés chez leurs victimes. Parce que la vraie prévention de la récidive, donc la réinsertion, c'est justement une fois qu'on a réellement pris conscience. Et donc, en cherchant des outils de ce type, j'ai, un peu par le hasard des choses, rencontré le coordinateur des rencontres détenues victimes du Québec. Et de cette rencontre est né d'abord un premier déplacement avec une équipe des Yvelines pour ensuite mettre en place un dispositif en partenariat avec France Victimes pour tester, si je puis dire, ce qu'on avait perçu d'intéressant à l'étranger, qui se fait non seulement au Québec, mais qui se fait également en Belgique, énormément.
Aussi, oui, bien sûr.
Et donc, c'est en cherchant finalement cet outillage que je suis tombé sur ce dispositif qui est formidable. Mais on est tellement, si vous voulez, configuré à garantir un cloisonnement entre les victimes et les auteurs qu'on n'a pas, dans un premier temps, penser que ça pouvait être intéressant tant pour l'auteur que pour la victime.
Oui, parce qu'il y a une double fonction. C'est à la fois d'un côté pour l'agresseur éviter, pour la société, on va dire, une récidive, et pour la victime, qu'elle se reconstruise réellement. Le temps d'un procès ne le permet pas toujours, Mélissa Thurio.
Mais en tout cas, c'est cet espace inédit de la parole et de l'échange. Moi, je suis très heureuse de vous entendre parce que je crois que de ces deux côtés-là, et c'est très bien de l'entendre, en France, on a du mal à se dire que de laisser ce temps de parole à des auteurs de crimes est nécessaire. Et j'y crois profondément, vous le dites bien, puisque c'était le sens le premier de votre démarche. C'est d'arriver à réinsérer, à motiver, à faire prendre conscience des répercussions de l'acte. Beaucoup ont eu conscience d'avoir fait du mal, mais pas des répercussions qui, à vie, des mois, des années, vont anéantir ou abîmer la personne à qui on a commis du mal. Et je crois que ces groupes de paroles-là ou ces échanges directs y contribuent fortement. Et donc la victime peut, pas se réparer totalement bien sûr, mais sans doute tourner une page, se libérer, avoir moins peur et vivre à nouveau un peu plus normalement.
Oui, François Goetz.
Ouais, Mélissa Thurio a dit quelque chose de très important au début de son intervention. Elle a parlé du besoin de la victime de comprendre. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la victime ne pourra pas se réparer tant qu'elle n'aura pas compris ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé, comment c'est possible que ce soit arrivé. Et les victimes, elles sont bloquées dans leur traumatisme tant qu'elles n'ont pas des réponses. Et finalement, c'est en rencontrant soit leur agresseur direct ou soit quelqu'un qui a commis des faits identiques, que là, il y a un certain nombre de, peut-être pas toutes, mais un certain nombre de réponses qui vont les aider.
Dans le parcours qu'on voit dans le film que vous produisez, il y a cette phrase très forte, à un moment donné, il a fallu que je voie que derrière l'agresseur, il y avait finalement aussi un homme. Et ça, c'est très compliqué à réaliser, ce parcours.
Absolument, pour nous, spectateurs ou qui sommes étrangers à ce qu'a vécu Mayana. Elle dit à un moment, je pense que quelqu'un doit aller bien pour ne pas avoir envie de commettre le mal. Et j'entends, elle était importante cette phrase qu'elle dit à sa sœur qui lui dit « Mais pourquoi tu retournes voir cet homme-là? Ça ne va pas. » Je crois fondamentalement en ça, en l'homme. Ça n'est pas un monstre, même s'il a commis quelque chose de monstrueux. Il s'agit de comprendre ce qui lui a fait commettre ou choisir ce chemin-là, un peu sombre, et comment il peut peut-être emprunter un autre chemin.
Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est d'entendre un extrait de ce que fut 33 ans après la première rencontre entre l'agresseur et la victime. Un dialogue tout simplement jamais entendu à ce jour.
Je suis désolé, madame. Je suis désolé de ce que je t'ai fait.
Tu m'as dit.
Je l'ai fait. Je ne veux pas revenir dessus. Le mal que je t'ai fait, je me le suis fait aussi à moi-même. Je comprends pas tout ça. Les prières, je ne comprends pas ça. Je l'ai fait, Mayana. J'en suis désolé, j'étais un jeune homme. Je prends ma responsabilité, je l'ai fait, Mayana. Et tu n'as aucune forme de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai réellement profité de cet instant où tu es une petite fille sans aucune défense. C'est-à-dire que tu ne te reproches jamais. Je t'en... Par pitié, ne te reproche pas de ne
pas défendre. Ça ne t'inquiète pas par rapport à ça, je ne me reproche rien. Mais qu'est-ce qui fait... Parce que tu dis, je comprends bien, et j'entends tes regrets, je te remercie de les exprimer.
Je ne demande pas de me pardonner, juste d'entendre que je suis complètement désolé.
Ça ne suffit pas pour le moment, tes explications.
Et ça ne suffira pas, effectivement, il faudra bien sûr d'autres rencontres, une longue période qu'on ne vous dévoilera pas ici. Dans quel cadre, dans quelles conditions ces rencontres se déroulent-elles? Nous en parlons dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez François Claus avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Et nous évoquons ce matin, avant la diffusion mardi soir à 20h50 sur France 5 du documentaire Choc produit par Mélissa Theuriot, Rencontre avec mon agresseur, cette justice restaurative qui s'installe petit à petit en France. François Goetz, il faut, c'est clair, des conditions très encadrées pour ces rencontres.
Oui, tout à fait. Il y a des conditions très précises pour encadrer les rencontres parce que c'est une des garanties que la rencontre atteigne bien l'objectif qui a été fixé, c'est-à-dire la réparation de la victime et la prise de conscience de l'auteur. Donc ça veut dire que les auteurs et les victimes sont préparés et formés d'une certaine manière à la rencontre. Et ensuite, cette rencontre, elle est encadrée par des animateurs qui sont eux aussi formés à la médiation, à garantir la parole des uns et des autres, et surtout à détecter si jamais il y a soit un auteur, soit une victime qui va éprouver trop de difficultés, donc pour pouvoir la soutenir, etc. Ça, c'est vraiment essentiel. On peut pas se livrer dans de l'amateurisme, parce qu'il y a eu de temps en temps des tentatives de gens pas formés. Non, c'est sérieux, c'est simple comme procédé, mais c'est très sérieux et très encadré.
C'est à la fois, Mélissa Theuriot, de la justice, de la psychanalyse. Il y a toute cette démarche pour parvenir à revivre normalement d'un côté et de l'autre quand ça se passe bien.
Je crois que c'est croire en l'humain, c'est souhaiter une harmonie sociale à laquelle moi je crois profondément. Et ces outils arrivent. Je regrette juste qu'ils ne soient pas encore assez connus de tous. Mais aujourd'hui, il en va vraiment. Il faudrait que les magistrats et que tout le monde puisse communiquer aussi sur l'existence de cette forme-là de justice, que les prisons comme celle de Poissy, les maisons d'arrêt, qu'on puisse aussi faire connaître ce dispositif à des gens et à des hommes et à des femmes qui auraient besoin, elles aussi, de s'interroger et d'avoir envie de...
On était dans le cas d'une victime de violence sexuelle pour lequel ce type de justice paraît totalement adapté, mais bien évidemment, on peut l'appliquer à d'autres et on pense aujourd'hui aux djihadistes en prison, aux auteurs d'attentats, on pense à la violence routière, on pense au meurtre d'enfants aussi. C'est sur ce type de difficulté que la justice a parfois à réparer une victime très très blessée et traumatisée qu'on intervient, François Goetz.
En fait, restauratif peut s'appliquer à tout type d'infraction ou de crime. Ça, c'est une force, parce qu'effectivement, aucune thématique ne conviendrait pas. Par contre, évidemment, ce n'est pas un outil miracle, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les auteurs comme les victimes soient prête à faire cette démarche. Certains ne le sont pas, et je ne les blâme pas, hein, c'est que ce n'est pas mûr. Mais pour que la rencontre produise des effets positifs, il faut déjà des prérequis qui sont justement, qui font l'objet d'entretiens avec des psychologues pour voir si la personne, elle est quand même prête à ce type de rencontre. Mais en dehors de cette précaution, ça s'applique à tous les types de crimes ou délits.
Dans le cas de Mayana Mélissa Thériault, il a fallu un an, hein.
Oui,
un an de préparation à la première rencontre.
Mais je crois que c'est le cas pour toutes les mesures de justice restaurative. Il me semble qu'il faut les préparer en amont et que c'est à peu près entre 8 mois et 1 an avant d'accéder. Hein, je crois que c'est à peu près ça pour chacune.
C'est ça, tout
et
à
en
fait.
Effet, c'est nécessaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'il y a besoin de cette préparation et on peut parfaitement, au bout d'une huitième réunion, dire « je ne m'en sens plus prête, pas capable, je ne souhaite pas rencontrer... mon agresseur ». C'est tout à fait possible. Il faut le dire aussi à tous ceux qui sont engagés dans cette voie-là. Et même en cours.
Même en cours. Même quand ça a commencé, à tout moment, ça c'est un principe absolument intangible, à tout moment, chaque participant conserve le droit de se retirer à tout moment.
C'est ça.
Et à dire,
sans avoir à donner de raison, d'ailleurs. Sans avoir à...
Voilà, on ne révélera évidemment pas la fin de votre film Rencontre avec mon agresseur, pour voir ce que, du côté de Mayana, du côté de son agresseur, cette démarche a produite, mais il était vraiment intéressant et c'est pour ça qu'il faut voir absolument Rencontre avec mon agresseur, diffusé mardi soir sur France 5 à 20h50, et puis il y aura également de la rediffusion.
Oui, bien sûr, et un débat passionnant avec Mayana Bidguin qui participera à ce débat. Et puis c'est un film co-réalisé par Sébastien Kogler, donc un beau film lumineux.
Et qui soulève un thème qu'on voulait aborder avec vous. Merci beaucoup François Goetz d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. C'est exceptionnel qu'on ait une caméra et du son pour vivre ce dialogue qui est généralement évidemment totalement
confidentiel.
C'est mardi soir 20h50, France 5, Rencontre avec mon agresseur.
Europe 1.
Et dans un instant, une autre rencontre. C'est l'une des actrices les plus attachantes de ces 15 dernières années. Espoir, meilleur espoir, César du meilleur espoir pour Déborah François. Déborah François nous rejoint pour un film, L'autre continent, qui sort mercredi.
Europe 1.
De 9h à 10h, on vous retrouve, François Claus, avec C'est arrivé demain.
Depuis presque 15 ans déjà, c'est un de ces visages féminins du cinéma qui, tour à tour, nous émeut, nous éblouit. Il y a une forme de fraîcheur, il y a aussi une grande profondeur, des rôles très divers. Il y aurait un peu de Cécile de France du début, peut-être. Il y aurait un peu de Adèle Haenel d'aujourd'hui. Il y a surtout du Déborah François. Bonjour Déborah François.
Bonjour.
Vous souscrivez à ces... comparaison que je viens de faire.
Évidemment, c'est des références magnifiques. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est très gentil.
On est heureux de vous recevoir sur Europe 1 ce matin. Vous êtes à l'affiche d'un très joli film, un premier long métrage signé Romain Cogitor, qui sort mercredi en salle, une centaine de copies partout en France. Ça s'appelle L'autre continent. On pourrait dire que c'est une histoire de couple extrêmement banale, c'est une histoire de maladie, de douleur, et pourtant c'est un film très original. Qu'est-ce qui ferait son originalité à partir de cette simple histoire de couple ?
Pour moi, c'est vraiment un film sur l'amour, et c'est un film qui est plein de lyrisme et plein de poésie. Donc c'est vrai qu'il y a un personnage qui tombe malade dans l'histoire, mais ce n'est pas du tout un film sur la maladie. Et je pense que l'originalité, c'est qu'on explore ce qu'on appelle dans le film les palais de la mémoire. C'est-à-dire qu'on explore l'intérieur de la tête aussi de la personne qui est malade et qui du coup est là à des moments avec moi et à d'autres moments ne l'est pas. Et on fait des allers-retours entre la France et Taïwan.
C'est à la fois un film dans le réel, on est dans ce qu'il y a de plus réel et de plus douloureux qui est le quotidien d'un hôpital, mais aussi un film qui nous transporte dans ces paysages vers l'Asie et qui crée un univers très singulier.
Oui, voilà, il y a quelque chose de très chaud, on peut presque sentir la moiteur dans l'image, dans les premiers plans, c'est de Français qui se rencontrent à Taïwan, donc il y a une atmosphère où ils sont très isolés, comme ça tout d'un coup l'Asie, moi c'est quelque chose qui me passionne l'Asie, donc forcément c'était un bonheur de tourner à Taïwan.
Alors il y a également un univers musical très singulier, mais qui finalement nous plonge très bien dans le film.
在我生命另一隅月光引我
Qu'est-ce qui vous fait, Déborah, François, dans votre filmographie, qu'on va remonter, choisir tel rôle, tel réalisateur? C'était pas évident, là, quand on voit le pitch. C'est peut-être ça, le cinéma, finalement. Il n'y a pas grand-chose d'écrit, et puis on part dans une aventure.
Oui, on part dans une aventure, mais c'est vrai que les trajectoires de personnages, pour moi, sont très importantes. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est très éparpillé et qui va se concentrer pour devenir un pilier. Et cette évolution-là, elle est très intéressante à jouer pour une actrice.
Mais vous cultivez cet éclectisme. On vous voit à la fois dans des comédies, vous avez tourné avec Jérôme Commandeur, on vous voit dans des films d'époque, vous jouez la femme de Paul Cézanne, on vous voit dans des téléfilms très engagés, une étudiante qui se prostitue, les violences conjugales. Vous cultivez cet éclectisme?
Ah oui, le secret, c'est de s'ennuyer très vite. Donc moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très très vite. Donc j'adore avoir plein de passions et justement... J'aime être engagée et en même temps, j'adore que les gens aillent au cinéma aussi pour se divertir ou pour faire les deux en même temps. Donc j'adore leur amener des films qui font ça, en fait.
Alors, Déborah François, j'ai évoqué les 15 ans presque déjà de carrière.
C'est
ça passe
gentil.
Vite, mais oui, parce que ça commence en 2005.
On est vendredi, à 1h du matin. Je peux être trop mal. Mets ta main sur mon ventre. Il est où, Jimmy?
J'ai vendu.
Quoi? Comment ça, vendu?
Oui, j'ai vendu.
On a reconnu évidemment la Sonia de l'enfant. C'était quasiment un premier rôle de grand cinéma pour vous. Monter les marches de Cannes, l'enfant des frères Dardenne sera Palme d'Or à Cannes.
Oui, premier film, premier casting, première expérience, première tout, première grande angoisse de monter le tapis rouge, de se dire est-ce que je vais me casser la figure dessus. Et puis voilà, une expérience qui reste évidemment, qui a marqué tout le reste de ma carrière, qui m'a appris... énormément de choses, toutes les bases en fait. Ça a été mon école primaire et secondaire.
Nous sommes 4 ans plus tard, 2009.
À propos, quand est-ce que vous nous en faites des petits-enfants?
Oh non, hein, on a décidé de sauter une génération.
Plaisantez pas avec ça. C'est important, vous avez une famille. Vous regardez grandir tous les trois, c'est le plus beau spectacle auquel j'ai assisté dans toute ma vie.
Vendredi 3 décembre 93, le premier jour du reste de ma vie.
On a reconnu évidemment le premier jour du reste de ta vie, Rémy Besançon, un film assez singulier puisqu'on suit une famille, 5 moments clés sur une douzaine d'années. Et là pour vous c'est la consécration, vous êtes espoir, vous gagnez le César du meilleur espoir du cinéma, vous vous retrouvez en pleine lumière.
Oui, et pour le coup je m'y attendais pas du tout parce que c'était ma troisième nomination, j'avais été nommée pour l'enfant et pour la tourneuse de page et j'y croyais plus du tout en fait, j'y croyais pas, surtout pour une comédie. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais on s'attend pas forcément à être récompensé pour ce type de film, et là encore c'était un scénario, je l'avais ouvert et quand je l'avais fermé, je m'étais dit il faut absolument que je convainque ce réalisateur, donc Rémy Besançon, que je ne connaissais pas à l'époque, de me prendre. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Tu m'as fait penser à ma petite sœur » et j'ai écrit ce rôle comme si c'était ma petite sœur.
Donc... Oui, et on retrouve donc le choix que vous avez fait avec Romain Cogitor aussi de partir vers une aventure nouvelle, singulière. C'est une forme de prise de risque.
C'est une forme de prise de risque, d'autant que c'est un premier film. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée-là, on part sur un scénario dans l'univers d'un réalisateur en se disant voilà, je saute dedans, il faut faire confiance. Et c'est important, on fait beaucoup de premiers films en France, donc je pense qu'il faut soutenir ça.
Alors il y a également dans votre cinématographie tous ces partenaires que vous avez croisés, et pas des moindres, Vincent Cassel, Romain Duris, vous êtes là avec Paul Lamy, très très beau rôle pour lui aussi. Comment l'alchimie avec ces monstres du cinéma français, je pense à Duris et à Cassel, se déroule, se produit? Vous devez créer un climat particulier sur les plateaux?
C'est vrai que généralement, quand ils arrivent, ils sont un peu impressionnés de tourner avec moi. Mais non, je plaisante.
Il y a de l'humour.
Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Mais non, j'ai commencé, j'ai croisé aussi des grandes actrices avec Catherine Froux, Sophie Marceau. Et j'essaye à chaque fois de me dire... Que je les connais pas, et d'essayer de vraiment dissocier la personne avec qui je suis en train de jouer et de faire comme si je jouais avec quelqu'un que je connaissais absolument pas, parce que je pense que c'est ce qui est le plus professionnel et ce qui nous bénéficie à tous les deux dans la relation d'acteur. Et après c'est des gens qui en général se révèlent très sympathiques.
Et c'était très sympathique de passer ce moment avec vous, Déborah François. Vous l'avez compris, L'autre continent à l'affiche mercredi, film très singulier qui va vous faire voyager. Ça serait finalement
un film d'amour. Vous allez rêver, vous allez partir avec moi à Taïwan et tomber amoureux.
Et on vous en dit pas plus, justement, parce que le cinéma, c'est la surprise, justement. Et c'est parfois difficile de parler, de donner envie d'aller voir un film à des gens qui ne l'ont pas vu. Mais j'espère qu'on a réussi. Et puis, bonne suite de parcours, d'aventures, comme celle que vous menez depuis une quinzaine d'années. Nous étions très heureux de vous recevoir
beaucoup.
Ce matin sur Europe 1.
À bientôt en salle.
Europe 1.
Dans un instant, un autre spectacle, mais on ne connaît pas le scénario. La Coupe du Monde des filles.
Europe 1, c'est arrivé demain. Europe 1.
Vous êtes avec François Claus jusqu'à 10h pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
C'est un événement colossal qui se profile vendredi soir à 21h, dont on mesure sûrement peu encore l'impact en France, tant la France a un certain retard dans ce domaine. J'ai nommé l'ouverture de la Coupe du Monde féminine. Ce sera à 21h au Parc des Princes à Paris. Le pays organisateur, la France, l'équipe des Bleus, sera opposée à la Corée du Sud. Bonjour Elisabeth Boujard-Tournon.
Bonjour.
Vous êtes ancienne joueuse, vous êtes responsable de la promotion de l'équipe de France au sein de la fédération et vous proposez une exposition depuis maintenant 6 mois partout en France sur l'histoire de cette équipe de France féminine. J'imagine que pour vous, ancienne joueuse, responsable de la promotion du foot féminin, c'est l'apothéose vendredi soir.
C'est l'apothéose, c'est l'aboutissement. Maintenant, l'aboutissement sera vraiment réussi que s'il y a une performance des Bleus. Mais effectivement, pour nous, les pionnières, on va dire, du football au féminin, c'est un moment magique et qu'on n'espérait pas vraiment, auquel on ne pensait pas. On n'osait même pas y rêver. Et ça a lieu chez nous. Et franchement, pour les 313 joueuses qui ont porté le maillot, c'est vraiment le top.
Alors, c'est le top, vous dites. Vous parliez de pionnières parce que vous participez de cette génération qui a dû... de filles qui a dû se justifier auprès de la société, auprès des hommes, qu'elles étaient des femmes qui jouaient au ballon et qui aimaient ça.
C'est ça, on a dû se justifier, oui, c'est un peu ça. On a surtout dû faire preuve de ténacité pour jouer dans un contexte quand même peu favorable. Ça avait démarré dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, où il y avait eu une vraie envolée. Ça plaisait bien, elle jouait devant des fois 10 000 spectateurs au stade Pershing, donc c'était quand même assez spectaculaire. Et puis après, la guerre de 40 est passée par là, et ça avait été déclaré nocif pour les femmes. Et c'est reparti en 67-68 pour être reconnue à la Fédé en 70. Et là, c'est vrai qu'il avait fallu vraiment s'accrocher parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'il fallait aussi montrer qu'on pouvait bien jouer au ballon avec les pieds, ce qui n'était quand même pas évident aux yeux des gens. Et puis, qu'on ne se cache pas qu'on était des vraies filles. Ça, c'était à l'époque la question qu'on nous posait.
Est-ce que c'est la frustration de ne pas participer, vous, à ce qui était votre rêve lorsque vous jouiez au foot, ou est-ce que c'est finalement une forme de plaisir que vous allez partager avec celles qui sont vraiment sur le terrain ?
Pour nous, c'est vraiment énorme et magique. Je crois que toutes les anciennes joueuses, et j'en ai pas rencontré une seule qui dise le contraire, sont très très supportrices. Il y en a beaucoup qui sont engagées comme volontaires pour l'organisation de la Coupe du Monde, et ça c'est chouette. Des filles des années 70, du stade de Reims, elles sont quasiment toutes impliquées et elles sont supportrices comme c'est incroyable. Elles sont derrière l'équipe, c'est pas de la frustration, donc c'est, je pense que chacune prend un petit peu sa part de cette histoire en disant cette Coupe du Monde elle est chez nous, ben, on a écrit une page, petite, grande, moyenne, mais elles se sentent complètement intégrées. Et le musée a aussi servi à ça, le musée que itinérant, parce qu'à chaque fois, certaines d'entre elles sont venues nous rejoindre, les locales de l'étape, on va dire, et en s'habillant avec le maillot de l'époque, et ont raconté devant des enfants et du grand public leur histoire, leur époque, et c'était magique, parce qu'elles disaient à tout le monde, on vous donne rendez-vous le 7 juin à 21h à la télé ou dans le stade.
Si je vous dis qu'en Norvège, une femme qui joue au foot gagne l'équivalent de ce qu'un homme gagne en jouant au foot, vous vous dites qu'il y a un peu de chemin à faire en France encore.
Oui, je pense que c'est un sujet qui est évoqué en permanence chez nous, parce que c'est vrai que les salaires mirobolants des garçons, ça fait un peu, ou ça subjugue, ou ça fait frémir. Bien entendu, on peut pas, c'est difficilement comparable. C'est vrai que dans ces pays-là, le football dans les pays nordiques n'a pas la même popularité, les mêmes enjeux économiques que chez nous. Donc, je pense que l'égalité salariale revendiquée par les filles est plus facilement accessible et on peut en discuter chez nous. En tout cas, on ne génère pas une économie suffisante. Le football n'est pas professionnel chez les filles en France. Elles ont encore le statut, elles sont sous contrat fédéral, mais elles n'ont pas le statut professionnel. La compétition est amateur. Donc on avance.
Ce sera la prochaine marche.
Exactement, c'est la prochaine étape. Je pense que cette Coupe du Monde va nous y aider. Mais quand tu as parlé d'égalité salariale, je pense qu'on n'en est pas là et que ce n'est même pas l'ambition du moment.
Et on n'en est pas là non plus dans l'ensemble de la société, il faut le préciser aussi, même si les écarts dans le football sont encore plus importants. Une Coupe du Monde féminine, ça amène plus de femmes à aller au stade et plus de petites filles à jouer au foot. C'est, le lien est quasiment évident, Elisabeth Boujard-Tournon.
Évident, oui, mais il est aussi dans une Coupe du Monde masculine. On s'est rendu compte en 98, on s'est rendu compte en 2006, quand l'équipe des garçons a fait des grandes performances, que nous avons connu chez les filles un boom de licence, parce que c'est le football tout court. Je veux dire que, effectivement, c'est le football joué par les filles ou le football joué par les garçons, mais c'est un seul et même football. Et que l'admiration, elle n'est pas sexuée. Quand on admire un joueur, maintenant une petite fille dit beaucoup plus facilement qu'elle a envie de jouer au foot. Donc elle a Neymar dans le dos, ou Mbappé, on espère qu'à la fin de cette Coupe du Monde, elle aura Eugénie Le Sommer, ou Sarah Boisdi, ou Amandine Henry. Mais je pense que les petites filles, oui, joueront plus facilement au foot si on fait une performance chez les filles, certes, mais c'est vrai que la Coupe du Monde des garçons, je vais juste rappeler ce chiffre rapide, c'est qu'on est champion du monde en 2018, le boom de licenciés, il est chez les filles, on a pris 15% de licenciés en septembre, ce qui n'a pas du tout été le cas chez les petits garçons.
Et je vais vous donner un signe, Elisabeth Boujard-Tournon, formidable. Hier, dans les rues de Paris, un homme, avait le maillot bleu, il était floqué, Eugénie Le Sommer. Le nom d'une fille, c'est quand même le signe qu'il va se passer quelque chose à partir du 7 juin, évidemment sur Europe 1, où nous allons très largement retransmettre en direct toutes les grandes rencontres. On peut également aller voir à Nice et à Lyon pendant cette Coupe du Monde, à Lyon à partir du deuxième tour, l'exposition itinérante que vous proposez sur cette histoire que vous nous avez racontée ce matin sur Europe 1. C'était un plaisir de partager votre passion foot féminin qui va faire vibrer toute la France. Bonne Coupe
plaisir
du Monde.
Plaisir partagé.
Bonne Coupe
Merci
du Monde à
beaucoup.
Vous.
Merci. Au revoir.
Retrouvez C'est arrivé demain, tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.